Herman Chatrian, Le violon du pendu, conte fantastique. Karl Hafitz avait passé 6 ans sur la méthode du contrepoint. Il avait étudié Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini. Il jouissait d'une santé florissante et d'une fortune honnête qui lui permettait de suivre sa vocation artistique. En un mot, il possédait tout ce qu'il faut pour composer de grandes et belles musiques, excepté la petite chose indispensable, l'inspiration. Chaque jour, plein d'une noble ardeur, il portait à son digne maître Albertus Quillian de longues partitions, très fortes d'harmonie, mais dont chaque phrase revenait à Pierre, à Jacques, à Christophe. Maître Albertus, assis dans son grand fauteuil, les pieds sur les chenets, le coude au coin de la table, tout en fumant sa pipe, se mettait à biffer l'une après l'autre les singulières découvertes de son élève. Karl pleurait de rage, il se fâchait, il contestait, mais le vieux maître ouvrait tranquillement un de ses innombrables cahiers et le doigt sur le passage disait « Regarde, garçon !» Alors Karl baissait la tête et désespérait de l'avenir. Mais un beau matin, qu'il avait présenté sous son nom à maître Albertus une fantaisie de Baccherini variée de Viotti, le bonhomme, jusqu'alors impassible, se fâcha. « Karl, s'écria-t-il, est-ce que tu me prends pour un âne? Crois-tu que je ne m'aperçoive pas de tes indignes larcins? Alors ceci vraiment est trop fort !» Et le voyant consterné de son apostrophe, « Écoute, lui dit, je veux bien l'admettre que tu sois dupe de ta mémoire, que tu prennes tes souvenirs pour des inventions. Mais décidément, tu deviens trop gras, tu bois du vin trop généreux et surtout une quantité de chope trop indéterminée. Voilà ce qui ferme les abus de ton intelligence. Il faut maigrir. » « Maigrir ? Oui, maigrir ou renoncer à la musique. La science ne te manque pas, mais les idées, et c'est tout simple. » Si tu passais ta vie à enduire des cordes de ton violon d'une couche de graisse, comment pourrait-elle vibrer ? Ces paroles de maître Albertus furent un trait de lumière pour Hafitz. « Oh, mais quand je devrais me rendre éthique, s'écria-t-il, je ne reculerai devant aucun sacrifice. Eh bien, puisque la matière opprime mon âme, je maigrirai. » Sa physionomie exprimait dans ce moment tant d'héroïsme que maître Albertus en fut vraiment touché. Il embrassa son cher élève et lui souhaita bonne chance. Dès le jour suivant, Karl Hafitz, le sac au dos et le bâton à la main, quittait l'hôtel des Trois Pigeons et la brasserie du roi Cambrinus pour entreprendre un long voyage. Il se dirigea vers la Suisse. Malheureusement, au bout de 6 semaines, son embonpoint était considérablement réduit et l'inspiration ne venait pas davantage. « Est-il possible d'être plus malheureux que moi ?» se disait-il. « Ni le jeûne, ni la bonne chair, ni l'eau, ni le vin, ni la bière ne peuvent monter mon esprit au diapason du sublime. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter un si triste sort ? Tandis qu'une foule d'ignorants produisent des œuvres remarquables, moi, avec toute ma science, tout mon travail, tout mon courage, je n'arrive à rien. » « Oh, le ciel n'est pas juste, non, non, il n'est pas juste !» Et tout en raisonnant de la sorte, il suivait la route de Bruck à Fribourg. La nuit approchait, il traînait la semelle et se sentait tomber de fatigue. En ce moment, il aperçut au clair de lune une vieille masure embusquée au revers du chemin, la toiture rampante, la porte disjointe, les petites vitres effondrées, la cheminée en ruine. De hautes orties et des ronces croissaient autour, et la lucarne du pignon dominait à peine les bruyères du pinceau où soufflait d'un vent à décorner les bœufs. Karl aperçut en même temps, à travers la brume, la branche de sapin flottant au-dessus de la porte. « Allons, se dit-il, l'auberge n'est pas belle, elle est même un peu sinistre, mais il ne faut pas juger les choses sur l'apparence. » Et sans hésiter, il frappa la porte de son bâton. « Qui est là? Que voulez-vous ? » fit une voix rude de l'intérieur. un abri et du pain. Oh, bon. La porte s'ouvrit brusquement, et Karl se vit en présence d'un homme robuste, la face carrée, les yeux gris, les épaules couvertes d'une houppelande percée au coude, une hachette à la main. Derrière ce personnage brillait la flamme de l'âtre, éclairant l'entrée d'une soupente, les marges de l'escalier de bois, les murailles décrépites, et sous l'aile de la flamme, une jeune fille, pâle, frêle, vêtue d'une pauvre robe de cotonnade brune à petits points blancs. Elle regardait vers la porte avec une sorte d'effroi. Ses yeux noirs avaient une expression de tristesse et d'égarement indéfinissable. Karl vit tout cela d'un coup d'œil et serra instinctivement son bâton. « Eh bien, entrez donc !» dit l'homme. « Faut pas attendre de venir les gens dehors !» Alors lui, songeant qu'il serait maladroit d'avoir l'air effrayé, s'avança jusqu'au milieu de la baraque et s'assit sur un escabeau devant l'âtre. « Donnez-moi votre bâton et votre sac !» dit l'homme. Pour le coup, l'élève de Maître Albertus tressaillit jusqu'à la moelle des os. Mais le sac était débouclé, le bâton posé dans un coin, et l'autre assis tranquillement près du foyer, avant qu'il fût revenu de sa surprise. Cette circonstance lui rendit un peu de calme. « Herr Wirt, monsieur l'aubergiste, dit-il en souriant, je ne serais pas fâché de souper. »« Et que désire monsieur à souper ?» fit l'autre gravement. « Une omelette au lard, une cruche de vin, du fromage. « Monsieur est pourvu de l'excellent appétit, mais nos provisions sont épuisées. »«
Épuisées, oui. »«
Toutes, oui. Vous n'avez pas de fromage ?»«
Oh non. Pas de beurre ?»«
Non.
Pas de pain ? Pas de lait ?»« Non.
Mais grand Dieu, alors qu'avez-vous donc ?»«
Des pommes de terre cuites sous la cendre. »
Au même instant, Karl aperçut dans l'ombre, sur les marges de l'escalier, tout un régiment de poules, blanches, noires, rousses, endormies, les unes la tête sous l'aile, les autres le cou dans les épaules. Il y en avait même une grande, sèche, maigre, hagarde, qui se peignait et se plumait avec nonchalance. « Mais, dit Afitz, la main étendue, vous pouvez avoir des œufs. Nous avons porté ce matin au marché de Brook. Oh, mais alors, coûte que coûte. » « Mettez une poule à la broche !» À peine eut-il prononcé ces mots, que la fille pâle, les cheveux épars, s'élança devant l'escalier, s'écriant « Oh, qu'on ne touche pas à mes poules! Qu'on ne touche pas à mes poules! Oh, qu'on laisse vivre les êtres du bon Dieu !» L'aspect de cette malheureuse créature avait quelque chose de si terrible que Afitz s'empressa de répondre. « Non, qu'on ne tue pas les poules !» Ben alors voyons les pommes de terre. Je me voue aux pommes de terre. Je ne vous quitte plus. À cette heure, ma vocation se dessine clairement. C'est ici que je reste, 3 mois, 6 mois. Enfin, le temps nécessaire pour devenir maigre comme un fakir. Il s'exprimait ainsi avec une animation singulière, et l'autre criait à la jeune fille pâle. Genoveva, Genoveva, regarde! L'esprit le possède, c'est comme l'autre. La bise redoublait dehors, le feu tourbillonnait sur l'âtre et tordait au plafond des masses de fumée grisâtre. Les poules, au reflet de la flamme, semblaient danser sur les planchers de l'escalier, tandis que la folle chantait d'une voix perçante un vieil air bizarre et que la bûche de bois vert pleurant au milieu de la flamme, l'accompagnait de ses soupirs plaintifs. Afitz comprit qu'il était tombé dans le repère du sorcier Hecker. Il dévora 2 pommes de terre, leva la grande cruche rouge pleine d'eau et but à longs traits. Alors le calme rentra dans son âme. Il s'aperçut que la fille était partie et que l'homme seul restait en face de l'âtre. « Herwirt, reprit-il, menez-moi dormir. » L'aubergiste, allumant alors une lampe, monta lentement l'escalier vermoulu, Il souleva une lourde trappe de sa tête grise et conduisit Karl au grenier sous le chaume.
« Voilà votre lit, » dit-il en déposant la lampe à terre. « Dormez bien et surtout prenez garde au feu. »
Puis il descendit et Hafitz resta seul, les reins courbés, devant une grande paillasse recouverte d'un large sac de plumes. Il rêvait depuis quelques secondes et se demandait s'il serait prudent de dormir, car la physionomie du vieux lui paraissait bien sinistre, lorsque, songeant dans ses yeux gris clairs, à cette bouche bleuâtre entourée de grosses rides, à ce front large, osseux, à ce teint jaune, tout à coup il se rappela que sur le Golemberg se trouvaient trois pendus et que l'un d'eux ressemblait singulièrement à son hôte. Il avait aussi les yeux caves, les joues percées, et que le gros orteil de son pied gauche sortait du soulier crevassé par la pluie. Il se rappela de plus que ce misérable appelé Melchior avait fait jadis de la musique et qu'on l'avait pendu pour avoir assommé avec sa cruche aubergiste du Mouton d'Or qui lui réclamait un petit écu de convention. La musique de ce pauvre diable l'avait autrefois profondément ému. Elle était fantasque et l'élève de Maître Albertus enviait le bohème. Mais en ce moment, revoyant la figure du gibet, ses haillons agités par le vent des nuits et les corbeaux volant tout autour avec de grandes clameurs, il se sentit frissonner et sa peur augmenta beaucoup lorsqu'il découvrit, au fond de la soupente, contre la muraille, un violon surmonté de deux palmes flétries. Alors il aurait voulu fuir, mais dans le même instant, la voix rude de l'autre frappa son oreille. « Éteignez donc la lumière » criait-il. « Couchez-vous. Je vous ai dit de prendre garde au feu. » Ces paroles glacèrent Karl d'épouvante. Il s'étendit sur la grande paillasse et souffla la lumière. Tout redevint silencieux. Or, malgré sa résolution de ne pas fermer l'œil, à force d'entendre le vent gémir, les oiseaux de nuit s'appeler dans les ténèbres, les souris trottaient sur le plancher, vermoulues. Vers 1 heure du matin, Hafitz donnait bien profondément, quand un sanglot amer, poignant, douloureux, l'éveilla en sursaut. Une sueur froide couvrit sa face. Il regarda et vit dans l'angle du toit un homme accroupi. C'était Melchior le pendu. Ses cheveux noirs tombaient sur ses reins décharnés. Sa poitrine et son cou étaient nus. On aurait dit, tant il était maigre, le squelette d'une immense sauterelle. Un beau rayon de lune, entrant par la petite lucarne, l'éclairait doucement d'une lueur bleuâtre, et tout autour pendaient de longues toiles d'araignées. Hafitz, silencieux, les yeux tout grands ouverts, la bouche béante, regardait cet être bizarre, comme on regarde la mort. Debout derrière les bridaux de son lit, quand la grandeur est proche. Et tout à coup, le squelette étendit sa longue main sèche et saisit le violon à la muraille. Il l'appuya contre son épaule, puis après un instant de silence, il se prit à jouer. Il y avait dans sa musique, il y avait des notes funèbres comme le bruit de la terre croulant sur le cercueil d'un être bien-aimé, solennelles comme la foudre des cascades traînées par les échos de la montagne, majestueuses comme les grands coups de vent d'automne au milieu des forêts sonores, et parfois tristes, tristes comme l'incurable désespoir. Puis au milieu de ces sanglots, se jouait un chant léger, suave, argentin, comme celui d'une bande de guêches chardonnerets voltigeant sur les buissons fleuris. Ces trilles gracieux tourbillonnaient avec un ineffable frémissement d'insouciance et de bonheur, pour s'envoler tout à coup, effarouchés par la valse folle, palpitante, éperdue. Amour, joie, désespoir, tout chantait, tout pleurait, ruisselait pêle-mêle sous l'archet vibrant, et Karl, malgré sa terreur inexprimable, étendit le bras et criait
« Ô grand, grand, grand artiste, ô génie sublime, ô que je plains votre triste sort, être pendu pour avoir tué cette brute d'aubergiste qui ne connaissait pas une note de musique, errer dans les bois au clair de lune, n'avoir plus de corps et un si beau talent, ô Dieu !» Mais comme il s'exclamait de la sorte, la voix rude de l'autre l'interrompit. « Hé là-haut, vous tairez-vous à la fin? Êtes-vous malade ou le feu est-il à la maison ?» Et des pas lourds firent crier l'escalier de bois. Une vive lumière éclaira les fentes de la porte, qui s'ouvrit d'un coup d'épaule, laissant apparaître l'aubergiste. « Ah, Hervite !» cria Hervite. « Hervite, que se passe-t-il donc ici ? D'abord une musique céleste m'éveille et me ravit dans les sphères invisibles, puis voilà que tout s'évanouit comme un rêve. » La face de l'autre prit aussitôt une expression méditative. « Oui, oui, » murmura-t-il, tout rêveur, « j'aurais dû m'en douter. Melchior est encore venu troubler notre sommeil. Il reviendra donc toujours. Maintenant, notre repos est perdu. Il ne faut plus songer à dormir. Allons, camarades, levez-vous. Venez fumer une pipe avec moi. » Karl ne se fit pas prier. Il avait hâte d'aller ailleurs. Mais quand il fut en bas, voyant que la nuit était encore profonde, la tête entre les mains et les coudes sur les genoux, longtemps, longtemps, il resta plongé dans un abîme de méditation douloureuse. L'autre, lui, venait de rallumer le feu. Il avait repris sa place sur la chaise effondrée au coin de l'âtre et fumait en silence. Enfin, le jour grisâtre parut. Il regarda par les petites fenêtres ternes, puis le coq chanta, et les poules sautèrent de marche en marche. « Combien vous dois-je ? » demanda Karl en bouclant son sac sur ses épaules et prenant son bâton. « Vous nous devez une prière à la chapelle de l'abbaye Saint-Blaise, » dit l'homme d'un accent étrange. « Une prière pour l'âme de mon fils Melchior, le pendu, et une autre pour sa fiancée, j'ai nommé Va la folle. Oui, c'est tout. Alors adieu, je ne l'oublierai pas. » En effet, la première chose que fit Karl en arrivant à Fribourg, ce fut d'aller prier Dieu pour le pauvre bohème et pour celle qu'il avait aimée. Puis il entra chez Maître Kilian, l'aubergiste de la Grappe, déploya son papier de musique sur la table, et s'étant fait apporter une bouteille de Kirikvir, il écrivit dans tête de la première page le violon du pendu et composa, séance tenante, sa première partition vraiment originale.